Geoffrey Dorian, Olivier Dallage.
Historien et linguiste de formation, il est diplomate professionnel depuis près de 25 ans et représente aujourd'hui son pays en France. Portrait d'Orient reçoit aujourd'hui Daniel Scheck, ambassadeur d'Israël à Paris. Bonjour Daniel Scheck.
Bonjour.
Vous êtes donc à la tête de l'ambassade d'Israël en France, une ambassade que vous connaissiez déjà pour y avoir séjourné au début des années 90 comme attaché de presse et porte-parole. Diplomate professionnel, c'est presque inhabituel pour ce poste où vous succédez à des hommes politiques et un historien. C'est vrai qu'en Israël, il y a une grande perméabilité entre la vie politique, la vie diplomatique, l'armée, enfin trois secteurs importants de la vie publique.
Oui, ça date d'une erreur historique du comité d'entreprise des diplomates dans les années 60 qui avait passé un accord avec le gouvernement qui donnait au gouvernement le loisir de disposer de 11 postes de chef de mission à sa guise, en dehors du personnel professionnel du ministère des Affaires étrangères.
11, pas 10, pas 12.
Non, en fait, c'était plus au départ. Et puis on a renégocié pour baisser un peu le chiffre, et on a renégocié une troisième fois pour définir quels seront ces postes. Donc ils ne sont pas fixes, mais disons que c'est plus souvent Paris, Londres et Berlin que Hanoï, San Salvador et je ne sais quoi. Et c'est vrai, vous avez raison de dire que dans ce contexte-là, la plupart de mes prédécesseurs dans ce fauteuil n'étaient pas des diplomates professionnels et venaient de différentes parties de la société israélienne, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'excellents ambassadeurs, mais ce n'étaient pas des diplomates de carrière.
Et donc vous confirmez que Paris, c'est un poste envié ?
Ah oui, certainement. Il était certainement envié par moi. Et c'était, je n'ai pas d'autres mots à utiliser, c'était mon job rêvé. Et je dois dire que ces derniers 15 ans, ça paraissait comme un rêve assez impossible à réaliser, justement parce que vous avez bien noté que c'était surtout des proches des ministres, donc des gens en dehors du personnel professionnel qu'il avait. Mais la vie est faite ainsi que des fois il y a des concours de circonstances qui font que des rêves peuvent se réaliser.
Et donc ça fait près de 3 ans que vous êtes ambassadeur d'Israël à Paris, donc poste envié. Est-ce que c'est un poste difficile ? Plus difficile que d'autres, que Londres ou Berlin, par exemple.
Oui, il est difficile. Et je dirais presque heureusement, parce que dans les postes faciles, on s'ennuie très facilement.
Vous allez nous dire comment il est difficile et en quoi il est difficile.
Non, il est difficile. D'abord, il est difficile par son ampleur. C'est une de nos plus grandes ambassades au monde. Elle englobe tout ce que fait une relation proche entre deux pays, c'est-à-dire tous les domaines. Ce n'est pas que la politique, la diplomatie, la défense, mais aussi le commerce, la culture. On a un attaché de police, on a un attaché agricole. On a vraiment, c'est tous les domaines qu'on peut imaginer. Donc c'est déjà une ambassade complexe. C'est une entreprise qu'il faut gérer. C'est une grande, relativement grande entreprise.
Combien de personnes au total ?
Il y a plus d'une centaine d'employés ici. Donc pour une ambassade israélienne, c'est presque disproportionné. On n'en a pas beaucoup. On a 2 ou 3 qui ont cette envergure.
Mais ambassadeur à Paris, vous êtes aussi ambassadeur accrédité auprès d'autres pays européens ?
Ah oui,
auprès
de Monaco, oui. Encore une grande puissance. Non, mais ce n'est pas sans importance pour nous. C'est un pays méditerranéen qui participe aujourd'hui à des forums, notamment l'Union pour la Méditerranée, mais aussi d'autres. Et je suis le premier ambassadeur d'Israël accrédité à Monaco, donc c'est encore un paragraphe dans mes mémoires.
Alors, on s'en aperçoit en vous écoutant, vous êtes de culture française, ça doit aider pour comprendre ce que peuvent attendre vos interlocuteurs et savoir comment leur parler.
La culture française que j'ai, elle est acquise. Moi, je suis né à Jérusalem, mes parents étaient de Tchécoslovaquie. Donc, dans mes gènes, il n'y a rien qui circule qui puisse justifier cet amour de la France. Si ce n'est que j'ai passé quelques années de mon enfance avec mon père, qui était diplomate lui aussi, ici à Paris, ma jeune enfance. Et puis, vous savez, dans les carrières de diplomate, vous commencez quelque part et puis vos enfants, ils suivent cette filière. J'avais commencé jeune enfant ici à Paris et puis dans le poste prochain qui était Vienne, en Autriche, où il était ambassadeur, je fréquentais un lycée français. Et c'est donc comme ça que ça a commencé. Et puis, l'événement majeur de ma biographie qui a fait que je suis tellement attaché à la culture et à la langue française, c'est que j'ai épousé une francophone, une femme d'origine tunisienne, dont la famille a émigré en Israël début 67. Et puis, comme vous l'avez mentionné, j'ai passé quelques années à Paris, à l'ambassade. Je suis très attaché à ce pays. C'est-à-dire, et ça aide beaucoup pour l'exercice de ce métier, j'aime évidemment profondément mon pays, mais j'aime aussi beaucoup la France et ce qu'elle représente culturellement, historiquement, dans son art de vivre et tout ça. Et je crois que ça me donne les meilleurs outils de peut-être, comme vous l'avez dit, comprendre la France un peu mieux que d'autres collègues et surtout expliquer la France à mes collègues à Jérusalem.
Alors, on y vient, on sait que les relations entre la France et Israël sont passionnelles, compliquées, changeantes, qu'il y a eu souvent des éclats de voix, des incompréhensions réciproques, suivies de réconciliations qui durent plus ou moins. Et ça, c'est indépendant de la personnalité de l'ambassadeur. Dans ce contexte-là, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui sont pour vous vos principaux défis en tant qu'ambassadeur d'Israël accrédité en France ?
Votre description est juste, elle décrit ce que j'utilise souvent comme comparaison. La France et Israël, c'est comme un couple à problème, mais un couple quand même, qui s'aime, qui sait qu'il doit continuer à maintenir cette relation proche, mais qui a des difficultés à vivre sa vie de couple. J'ai eu beaucoup de chance dans la mesure où j'ai entamé ce poste il y a 3 ans à une période où les relations entre les deux pays étaient déjà depuis quelques années sur une phase ascendante, sur une phase de décrispation, sur une phase de volonté de plus grande proximité dans les relations bilatérales et d'un dialogue plus proche dans le domaine politique. Et puis sur fond donc de cette période lente mais consistante d'amélioration est advenue l'élection du président de la République, de Nicolas Sarkozy, qui a donné, il faut le dire, un coup d'accélérateur à cette relation. Et donc je me suis retrouvé ambassadeur d'Israël en France à ce qui est à mes yeux sans doute la meilleure période des relations depuis les années 60. Et cela veut dire que les défis sont un peu différents. Ils sont moins dans le mode défensif ou dans le mode confrontationnel, mais c'est plutôt des opportunités qui s'ouvrent à vous à faire des choses vraies, tangibles, pérennes dans les relations entre les deux pays, et pas forcément dans le domaine politique, quoique je crois que le dialogue politique aussi entre les deux pays a retrouvé ce que j'appelle volontiers l'intimité qui le caractérisait pendant les meilleures périodes de nos relations.
Les meilleures périodes, c'est-à-dire avant 67.
C'est ce qu'on dit, oui. C'est la période, disons, les années fastes de ce dialogue. Et je crois que pour la première fois depuis les années 60, en 2007 et 2008, nous avons retrouvé cette intimité. Ce qui ne veut aucunement dire que nous sommes d'accord sur tout. Loin de ça. Il y a de gros différends d'appréciation, d'objectifs peut-être entre la France et Israël sur certains dossiers. Sur d'autres dossiers, il y a une grande entente. Mais même les désaccords se passent sur un ton moins passionnel. Vous avez justement qualifié de très passionnel cette relation.
Alors, un de vos prédécesseurs, Élie Barnavi, a expliqué souvent que il passait une bonne partie de son temps à expliquer à ses collègues et à l'opinion israélienne que l'image anti-israélienne qu'elle pouvait avoir dans la presse et auprès peut-être de certains membres de la classe politique ne correspondait pas à la réalité qu'il vivait. Est-ce que cette perception existe toujours et est-ce qu'il y a une distorsion entre ce que vous vivez et les questions qu'on peut vous adresser depuis votre pays ?
Oui, sans doute. Je crois qu'Élie Barnavi avait raison, sans doute, de le dire à l'époque où il était ambassadeur. Je crois que la distance entre la réalité et la perception s'est raccourcie. Et que, notamment en Israël, parce que on a tous tendance à connaître les problèmes d'image que connaît Israël en France depuis très longtemps. Les gens connaissent moins le fait que la France a un sacré problème d'image en Israël aussi. la France n'était pas un pays très apprécié. Moi, j'appartiens à une minorité, qui, minorité francophile qui...
Et ça, ça a changé.
Et ça, ça a énormément changé.
Et les vous n'avez pas le sentiment que, parallèlement, l'image d'Israël en France a évolué de la même façon ?
Si. Si, si, tout à fait, c'est ce que je dis. Je pense que la réalité et l'image se sont rapprochées.
Des deux côtés.
Des deux côtés. Et c'était d'ailleurs une condition sine qua non pour que se produise ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire ce rapprochement et cette décrispation des relations. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas au bout de ce processus et il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais je pense qu'en Israël, beaucoup plus. Dans la classe politique, mais aussi dans l'opinion publique en général, reconnaissent l'importance pour Israël de maintenir une relation positive avec la France, comprennent les intérêts qu'Israël a en France, en Europe en général. Ce n'est pas une particularité de la France d'être vue de manière problématique. Il y a 5 ou 10 ans, c'était le sort de l'Europe en général.
Alors, une particularité de la France, c'est qu'elle héberge la plus grande communauté juive d'Europe occidentale. Et ça confère à l'ambassadeur d'Israël en France un rôle particulier pour des raisons tenant aux relations qu'il peut y avoir entre la communauté juive, en tout cas organisée, et l'État d'Israël.
C'est très juste. C'est une dimension extraordinaire de cette fonction d'ambassadeur d'Israël en France. C'est que c'est un ambassadeur qui ne se sent jamais seul. Il y a une très grande famille.
Peut-être quelquefois un petit peu trop entouré même.
Il y a une très grande famille, et les familles, vous savez, il y a des avantages et des inconvénients. Mais les avantages sont infiniment plus nombreux que les inconvénients. Les Juifs de France sont avant tout des Français extrêmement attachés aux valeurs de ce pays, mais qui en parallèle sont très attachés à Israël.
Est-ce que le zèle de certains partisans inconditionnels d'Israël au sein de cette communauté ne vous met pas quelquefois en porte-à-faux quand vous essayez d'introduire de la nuance ?
Je ne peux pas nier complètement ce que vous dites, mais ce n'est pas la règle générale. De manière générale, les dirigeants de cette communauté et ceux qui sont actifs, parce que beaucoup des Juifs de France ne sont pas intéressés directement au quotidien, ils suivent à peu près, ils respectent le choix des Israéliens, c'est-à-dire ils respectent la démocratie israélienne dans la mesure où ils disent ce ne sont pas nous qui avons le droit de choisir la politique des Israéliens, c'est les Israéliens qui y vivent, qui y payent les impôts, qui envoient leurs enfants à l'armée, c'est à eux de choisir.
Mais quelle politique change au gré des élections.
Exactement. Et leur attachement est à Israël en tant qu'entité, en tant que pays, en tant qu'incarnation de l'indépendance du peuple juif, qu'ils n'ont pas choisi de partager. Certains d'entre eux vont vivre en Israël, mais tant qu'ils vivent en France, ils se sentent comme des frères, mais pas comme ceux qui décident. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, mais tout se passe normalement vraiment dans un respect de qui fait quoi et à qui incombent les responsabilités. Il y a surtout une grande chaleur par rapport à Israël. Beaucoup de Juifs en France ont des parents, des membres de leur famille qui vivent en Israël. Beaucoup y passent leurs vacances, fêtent leur mariage ou bar mitzvah là-bas. Donc c'est un attachement très viscéral, très charnel.
Vous n'êtes évidemment pas le représentant de la communauté juive française, mais vous avez des rapports, des liens, comme vous venez de l'expliquer. Professionnellement, dans votre cahier des charges, quelle place tient ce contact avec la communauté juive dans un pays comme la France où elle est aussi importante ?
C'est une place importante parce que ce sont des partenaires et parce que je veux qu'ils ressentent que de la même manière que eux se sentent proches de l'État d'Israël, je veux qu'ils sachent et qu'ils ressentent que l'État d'Israël se sent proche d'eux.
Je vous pose la question directement. Est-ce que vous êtes chargé d'animer une sorte de comité de soutien, de lobby pro-israélien au sein de cette communauté ?
Non, je ne suis pas amené à l'animer, mais il existe. Il existe spontanément, par leur volonté. Ils soutiennent Israël, ils ne le cachent pas. Je m'en réjouis, mais ils ne travaillent pas pour l'ambassade et ce n'est pas moi qui dois animer ça. C'est eux qui viennent vers nous et d'ailleurs qui fonctionnent aussi indépendamment comme des citoyens français qui ont le droit d'exprimer leur volonté, que ce soit en matière de questions sociales, de leur droit à la pratique religieuse, mais aussi sur la politique de la France. Je crois que c'est ce que font beaucoup de cercles dans la société française qui se sentent concernés par un dossier ou par un autre.
est aujourd'hui consacré à Daniel Sheikh, ambassadeur d'Israël à Paris. Revenons à l'évolution du Moyen-Orient depuis un quart de siècle. Quand vous commencez votre carrière diplomatique, Israël n'a de relation qu'avec un seul État arabe, l'Égypte. Aujourd'hui, plusieurs pays arabes ont des liens diplomatiques formels avec Israël, et pourtant, il y a toujours un conflit au Proche-Orient.
Comme je vous ai dit, mon père était diplomate. Et je compare des fois le sort que j'ai, moi, en tant que diplomate israélien, à celui de la génération de mon père, les fondateurs de la diplomatie israélienne. Mon père, qui était venu d'Europe après la guerre, donc survivant de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a participé à cette aventure de la création de l'État en créant sa diplomatie. Et mon père est décédé à un jeune âge, c'était vraiment tout juste après le voyage historique de Anwar el-Sadat à Jérusalem en 77. Et je me dis toujours que lui qui croyait profondément que la raison profonde d'être diplomate en Israël, c'est de un jour pouvoir faire la paix avec nos voisins et d'intégrer le pays dans la région, mais qui n'a pas eu la chance d'avoir un sentiment tangible que c'est faisable. C'était une sorte de rêve ou d'objectif un peu abstrait. Ma génération à moi a la chance de savoir que c'est possible. Parce que nous avons la paix avec l'Égypte, parce que nous avons la paix avec la Jordanie, parce que nous avons avancé énormément dans nos contacts avec les Palestiniens, avec le reste du monde arabe. Alors vous avez raison de dire, le conflit existe encore, les défis sont encore énormes, mais nous savons avec certitude que ce n'est pas impossible. Et ça change totalement la manière de réfléchir et de voir en tant que diplomate.
Ça, c'est ce que vous dites et que vous pensez très certainement. Il y a beaucoup de gens, aussi bien en Israël que dans le monde arabe, qui, après les espoirs et la percée des accords d'Oslo, a eu une désillusion à la mesure de cette espérance et qui croit que plus rien n'est possible.
Oui, mais ils ne sont pas invités dans votre émission aujourd'hui. C'est moi qui suis invité et moi je partage avec vous mon sentiment profond. Moi je crois profondément à la paix entre Israël et les pays arabes, entre Israël et les Palestiniens. C'est ce qui m'anime dans une grande mesure dans ma vie professionnelle, mais aussi en tant qu'Israélien qui élève ses enfants en Israël, qui voit l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants là-bas. Ce n'est que, ou essentiellement, à l'aune de cette conviction que c'est faisable, que j'ai choisi ce métier. Je vous le dis sans ambiguïté, c'est un beau métier. Je prends beaucoup de plaisir à gérer les affaires culturelles entre la France et Israël. Ça me donne une énorme satisfaction. Mais au bout du chemin, ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer encore à ce qui est à mes yeux la dernière phase de l'établissement de l'État d'Israël, c'est-à-dire la paix avec nos voisins.
Alors d'ailleurs nous sommes ici, non pas en studio à RFI, mais dans votre bureau, et derrière vous, il y a le célèbre dessin de Plantu où on voit un drapeau palestinien et israélien mélangé, porté par une colombe. Donc là on n'est pas dans le rêve.
C'était un petit projet qu'on avait fait ensemble, Plantu et moi, et Shimon Peres et Yasser Arafat. Et c'est une belle petite anecdote.
Et il l'avait fait signer par Peres et par Arafat.
Exactement, et je l'avais aidé. Moi, je travaillais avec Peres à l'époque. Et bon, c'est vrai, le temps a passé. Et je ne suis pas non plus un rêveur aveugle. Je comprends bien qu'avec chaque tentative qui échoue, la prochaine devient plus difficile.
Alors les rapports sont très durs en ce moment entre Palestiniens et Israéliens, et en même temps, à la lumière de ce que vous dites, vous étiez porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'époque dont nous parlons, hein, dans la période des accords d'Oslo. On sortait tout juste d'une période où, de par la loi israélienne, un Israélien n'avait pas le droit de rencontrer un membre de l'OLP. Et dans la foulée des accords d'Oslo, on voit les diplomates israéliens et les représentants de l'OLP participer à un nombre colossal d'émissions de radio, de télévision, côte à côte. Ça en devient presque un numéro de duettiste. On est maintenant dans la troisième phase. Est-ce que cette banalisation des contacts, en dépit des accords très profonds, c'est une raison d'espérer, ou au contraire, finalement, on ne déteste bien que ce qu'on connaît bien?
Non, je crois que la banalisation est bonne. C'est-à-dire le fait que pour un nouveau Premier ministre israélien, c'est tout à fait banal et normal qu'une de ses premières démarches, c'est d'aller à la rencontre de dirigeants arabes, que ce soit le président égyptien ou le président de l'autorité palestinienne. Je trouve ça une des marques de l'évolution. Quand on me dit rien n'a changé, rien n'a changé, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est peut-être les réflexes d'historien, c'est que je vois un tout petit peu plus loin que le journal d'hier.
Sur le terrain, quand même, les choses changent beaucoup avec ce qu'on appelle la colonisation, ce que les Israéliens appellent les implantations, qui, dans la mesure où ça se poursuit encore, risque de rendre très problématique la solution à deux États.
Oui, je suppose que vous m'auriez tenu le même discours si on avait fait cette interview en 2004. Vous m'auriez dit que ce que vous faites à Gaza rend impossible la contiguïté territoriale du futur État palestinien, parce que les implantations israéliennes prennent la moitié du territoire de Gaza et donc ce ne sera pas possible, etc., etc. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas un seul Israélien à Gaza. Donc on ne peut pas prendre la réalité d'aujourd'hui comme une indication de ce que sera l'avenir. L'avenir sera fait d'un accord qui sera signé entre les deux parties et qui forcément va changer les réalités d'aujourd'hui. C'est ça toute la logique. Et vous dites, il y a eu des changements sur le terrain avec les implantations. Il y a eu des changements dans la vie des Palestiniens entre 1993 et aujourd'hui qui sont énormes. Ils ont un gouvernement, ils ont des élections, ils ont une vie politique, ils ont une vie économique qui est difficile mais qui jette les bases de l'indépendance. Et on ne peut pas se contenter de regarder les choses à court terme, ni vers le passé, ni vers l'avenir.
Alors à court terme, le président de l'État d'Israël a une longévité politique exceptionnelle, hein, puisque Shimon Peres, vous en parliez tout à l'heure, vous avez été son collaborateur.
Encore une photo que vous voyez derrière vous, derrière moi.
Et l'un des tout derniers survivants des acteurs de la création de l'État d'Israël. Ce sont maintenant de nouvelles générations qui sont aux affaires. Est-ce que le côté pionnier qu'a pu représenter la génération des fondateurs a laissé la place à une génération de réalistes, j'allais dire de bureaucrates, qui gèrent les affaires du pays d'une manière différente ?
Vous savez, la question de pionnier, elle a deux dimensions. D'abord, vous parlez de la génération de pionniers en politique. Oui, je crois que la démocratie israélienne a évolué un peu comme toutes les démocraties occidentales, c'est-à-dire que les gens qui se présentent et qui se font élire aujourd'hui ne sont pas exactement de la même trempe que ceux d'il y a 40 ou 50 ou 60 ans. Les élections à l'ère des médias de masse portent au pouvoir des personnalités différentes qu'il y a 50 ou 60 ans. Mais l'esprit pionnier du pays, il existe très profondément. Alors c'est vrai, les pionniers d'aujourd'hui ne sont plus des agriculteurs et ils ne vivent plus dans un kibboutz. Ils portent un costume et ils ont créé une start-up. Mais c'est le même esprit qui les anime. Une sorte de mode de pensée un peu casse-cou, un peu aventurier, tout est possible, etc. Et c'est la raison pour laquelle Israël est aujourd'hui vraiment à la tête, dans le groupe de tête mondial de pays qui créent des technologies nouvelles, des technologies intéressantes dans le mode de l'environnement, de l'informatique, etc. C'est le même état d'esprit pionnier.
Alors, Daniel Schell, vous êtes diplomate. Les diplomates sont payés pour être optimistes et pour voir une lueur d'espoir quand tout le monde désespère. Il n'empêche qu'au Moyen-Orient, on parle souvent du mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on monte le rocher jusqu'en haut de la colline et puis le rocher redescend, il faut le remonter à nouveau. Toutes ces successions de négociations qui donnent de l'espoir et qui n'aboutissent pas, est-ce que par moment vous ne nous dites pas, ben finalement, oui, c'est un éternel recommencement, il y a plus de processus que de paix dans tout ça?
D'abord, si vous attribuez aux diplomates le rôle d'être les éternels optimistes, moi j'assume volontiers ce rôle. Je ne pense pas que je suis un optimiste débile. Je crois que je suis un optimiste qui arriverait à expliquer, à donner des fondements réels à mon optimisme. Mais je suis un optimiste extrêmement prudent. Moi je sais qu'au bout du chemin, il y aura un accord. Mais je sais que ce chemin peut encore être long et qu'il est fait de haut et de bas. Est-ce qu'il y a plus de processus que de paix ? Pour le moment, c'est vrai. Mais vous savez, il y a dans l'histoire, le dernier mot sera celui de l'historien sans doute, il y a quelque chose de miraculeux dans ce que l'on appelle un moment historique. De quoi est fait un moment historique ? On ne sait jamais. Un jour, les conditions sont alignées de telle manière qu'une chose qui avait été dite ou faite ou tentée 5 ans avant et qui a complètement échoué devienne une réalité. C'est la manière de laquelle personne n'a pu prévoir la chute du mur de Berlin, et un jour c'est passé, et personne n'a pu prévoir les accords d'Oslo, et un jour Shimon Peres et Abu Ala sont sortis de ces négociations secrètes dont personne n'était au courant, et il y avait la reconnaissance mutuelle entre Palestiniens et Israéliens.
Alors vous venez de le rappeler, on l'a dit au début de cette émission, au début de votre vie professionnelle, vous n'étiez pas diplomate. En Israël, on voit souvent les militaires et aussi parfois les diplomates se lancer en politique. Alors est-ce que vous êtes tenté ?
Tenté, c'est un grand mot. Vous savez, la politique aujourd'hui, c'est pas quelque chose de particulièrement tentant. Non. Pour le moment, je suis totalement dévoué à ma mission diplomatique ici à Paris. Il y a toutes les chances que je revienne à Jérusalem dans un an ou deux pour rejoindre le ministère des Affaires étrangères et continuer cette mission. Mais sait-on jamais? On parlait justement des moments qui changent le cours de l'histoire. C'est valable pour l'histoire des pays, c'est peut-être valable aussi pour l'histoire des hommes.
En bon diplomate, vous ne fermez aucune porte. Merci Daniel Scheck d'avoir accepté de participer à Portrait d'Orient.